15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Depuis lundi, vous l'avez compris, nous nous mobilisons avec le docteur Jimmy Mohamed dans ce combat contre l'épidémie de coronavirus en France. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mélanie.
Bon, vous tenez le coup, ça va en consultation ce matin. Est-ce que comme hier, vous avez vu encore beaucoup de patients potentiellement atteints du coronavirus ?
Eh bien écoutez, ça continue, je reprends l'activité ce soir. C'est vrai qu'on est un peu inquiet, d'autant plus qu'on a de plus en plus de médecins malades. Je ne sais pas combien de temps on tiendra ce rythme, mais bon, en tout cas, on est là au chevet de ceux qui ont besoin de nous.
Allez, au programme aujourd'hui, pour vous répondre à toutes vos interrogations médicales, nous aurons bien évidemment des experts en ligne. D'abord, le docteur Marina Kamorchkine. Elle est infectiologue à l'Hôtel Dieu, à Paris. Avec elle, nous ferons le point notamment sur le dépistage du coronavirus. Pourquoi seuls les cas les plus graves sont uniquement testés ou les soignants? Elle nous expliquera tout ça. Nous interrogerons aussi le docteur Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France. Il est également médecin généraliste à Clamart et lui-même contaminé par le coronavirus. Nous prendrons évidemment de ces nouvelles et je crois qu'il est assez fâché, vous l'entendrez, contre le gouvernement. Selon lui, les soignants n'ont clairement pas été assez équipés en matériel de protection. Ensuite, nous ferons un point sur l'une des conséquences directes de cette épidémie. De nombreux médecins se sont mis à la téléconsultation. Pour en parler, nous aurons en ligne le président fondateur de la plateforme Doctolib, Stanislas Nioc-Château. Avec lui, ensuite, les allergologues viendront nous rejoindre, les pneumologues, car ils s'inquiètent, eux aussi, tout particulièrement pour leurs patients asthmatiques ou même les allergiques. Surtout, n'arrêtez pas vos traitements. On fera le point avec l'allergologue Madeleine Epstein. Enfin, pour terminer, avec Catherine Blanc, notre psychanalyste maison, nous prendrons un tout petit peu de recul sur l'épidémie. Elle nous expliquera les bienfaits du rire, des rigolades en famille sur notre bien-être psychique. Ça peut même se faire par vidéo ou par téléphone à distance. On testera nous aussi le concept tout à l'heure, c'est promis.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour, docteur Marina Kamorchkine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'Hôtel Dieu à Paris. D'abord, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer quel est le rôle justement de l'Hôtel Dieu dans cette crise sanitaire ?
Oui, alors absolument. Donc moi, je suis à la base spécialiste de l'infection par le VIH et j'ai été, comme beaucoup de collègues, on a été redéployés. Et à l'Hôtel Dieu, depuis une semaine, on effectue le dépistage du coronavirus pour les soignants. Donc tous les soignants, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, les infirmières, les aides-soignants, les ambulanciers, les médecins, les chirurgiens, etc.
D'accord. Et justement, dans votre service, on tient le coup. J'imagine que le nombre de tests, bah, même si vous testez, vous, particulièrement les soignants, bah, chaque jour, ça doit pas cesser d'augmenter, hein, c'est ça ?
Alors, actuellement, on dépiste environ 180 personnes par jour. Et globalement, il y a 30% des soignants qu'on dépiste qui sont positifs. Donc, effectivement, l'épidémie, elle est très, très dynamique chez les soignants.
Ah oui. Et quel est l'état des troupes ? On sait combien de soignants potentiellement ont été vraiment contaminés. Là, vous avez dit sur tous les échantillons que vous analysez tous les jours, 30%. Mais depuis le début de la crise, on sait combien de soignants, d'ailleurs, ce sont des paramédicaux, des médecins, enfin, il y a des infirmières, il y a un peu tout le monde qui est concerné. Combien il y en a à peu près depuis le début ? Vous, c'est la région parisienne que vous testez ?
Oui, nous, on est sur la région parisienne, donc on n'a pas les chiffres pour toute la France. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ce centre est ouvert pour les soignants. Ils doivent appeler le 15 pour avoir simplement un rendez-vous. Donc, on a un système qui fonctionne bien. Ce qui est inquiétant, effectivement, c'est la dynamique de l'épidémie chez tous nos collègues.
Jimmy Mohamed ?
Et justement, les patients qui ont des formes mineures, les médecins, les soignants, qui finalement sont peu symptomatiques, est-ce qu'ils continuent à travailler avec des mesures supplémentaires de protection ou finalement on les met à l'isolement comme tous les patients lambda qu'on peut voir ?
Non, les soignants positifs pour le Covid ne travaillent plus pendant une durée qui est d'au moins 9 jours. En fait, les soignants peuvent reprendre le travail 48 heures après la fin de tout symptôme. C'est-à-dire, en général, c'est un minimum de 9 jours.
Donc ça veut dire, je crois que j'avais entendu dire quand même qu'il y avait aussi une éventualité, si les choses s'aggravent encore, que ces soignants, même contaminés, s'ils sont faiblement atteints, ben on puisse quand même leur demander. Parce que finalement, si les soldats de la première ligne tombent tous, qui va nous soigner ? C'est ça aussi.
Ben c'est ça. Pour le moment, l'objectif, hein, vous avez compris, c'est d'étaler la vague épidémique. Donc, on a conscience que nous, les soignants, on risque de tous être infectés. Ce qu'on veut, c'est ne pas être tous infectés en même temps. Hein, donc, l'idée, c'est qu'un soignant malade qui a des symptômes compatibles avec le Covid vienne se faire dépister. On a des capacités qui sont pas... Enfin, on peut dépister encore tous les jours. On a de la place. On est ouvert samedi et dimanche. Et une fois qu'on a le rendu du test, en fait, il faut 48 heures pour avoir les résultats du test. Et
à ce moment-là, on fait...
C'est long, ben oui, parce qu'en fait, les centres de dépistage de virologie de l'assistance publique étant débordés, en fait, on travaille avec un prestataire externe, un laboratoire privé, et ça prend 48 heures. Donc, on a mis également une plateforme pour les rendus de résultats, on fait intervenir nos étudiants en médecine pour rendre les résultats, on fait des arrêts de travail pour les soignants, tout ça, c'est un peu inhabituel.
Mais
Hier, le ministère de la Santé a précisé que désormais, nous avons plus de 10 000 cas confirmés en France, mais on est d'accord que finalement, les cas dépistés, en réalité, il y en a beaucoup plus. On peut estimer à combien de Français qui sont potentiellement touchés, justement, dans la vraie vie, tous les jours. Moi, à titre personnel, je vois entre 10 et 20 malades que je ne fais pas tester, qui ont des symptômes typiques, mais c'est exactement la même chose pour tous mes confrères. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une projection sur le nombre de cas en France qu'on aurait ?
Alors aujourd'hui, ça seuls les épidémiologistes pourraient faire une projection. Là, j'en suis bien incapable. Mais évidemment, je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de milliers de personnes sont infectées en France. On n'a pas de chiffres et on n'en aura pas, puisque par définition, les cas bénins ne sont pas testés.
Vous êtes infectiologue et vous avez dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste du VIH. Ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas avec le coronavirus, c'est quelque chose vraiment d'inédit. Hein. Vous avez jamais vu ça de votre mémoire d'infectiologue,
non,
on va dire.
Ouais, non, c'est totalement inédit. Ouais. La mobilisation est inédite. La solidarité, vraiment, j'insiste là-dessus, la solidarité est absolument magnifique. Je dois dire que tous les soignants se mobilisent. On a des horaires de travail qui sont épouvantables. On est déjà fatigués, mais on essaye de se relayer. On mobilise, voilà, la réserve sanitaire, des internes, des externes. On travaille vraiment main dans la main. Il y a plutôt une très bonne ambiance.
Ce que les Français se demandent déjà au bout de 3 jours là, de confinement, c'est combien de temps tout ça va durer. Je crois qu'il faut être assez clair, docteur, ça sera plus que les 15 jours annoncés pour le moment de confinement, on est d'accord ?
Alors ça, non, mais ça, ce sera des décisions que je n'ai absolument pas idée des décisions qui vont être prises. Ce que je voudrais, c'est quand même réexpliquer pourquoi le confinement, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui posent des questions et je crois que les gens n'ont pas bien compris. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont porteurs du coronavirus et qui peuvent le transmettre, qui n'ont aucun symptôme. Donc ces enfants-là, bah, ce sont des vecteurs. Les personnes, les adultes qui ont le coronavirus sont contaminants avant même d'avoir des symptômes. Donc, ces personnes-là vont également le transmettre. Donc, l'objectif du confinement, c'est d'arrêter de mettre en contact des gens qui sont porteurs et qui ne le savent pas forcément avec des gens qui ne l'ont pas encore. Donc, le confinement à ce jour est absolument essentiel et la durée, moi, j'en sais rien du tout.
Merci, docteur Karmouchkine. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Avec nous en ligne pour vous répondre et vous faire part de l'évolution de la situation, une infectiologue toujours. Nous aurons aussi tout à l'heure au téléphone un médecin généraliste contaminé et en colère, vous l'entendrez. Mais avant ça, on va se détendre avec un peu de musique. Je vous propose d'écouter un duo, c'est Maître Gims et Vianney, ça s'appelle La Même.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Bah c'est la même.
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Gims en duo avec Vianney, ce morceau qui vous a fait du bien, j'en suis sûre, ça m'a fait du bien à moi, en tout cas chez moi. Son titre, c'est La Même.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission aujourd'hui évidemment consacrée toujours à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger. Hein, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors à mes côtés pour vous répondre, le docteur Jimmy Mohamed et des experts. Alors justement, hein, elle est toujours en ligne avec nous, le docteur Marina Karmochkine. Je rappelle que vous êtes infectiologue, à l'Hôtel Dieu à Paris. Docteur, on va tout de suite écouter une question d'auditeur à laquelle vous allez peut-être pouvoir répondre. C'est celle de Gaëtan. On l'écoute. Gaëtan, on a peut-être un petit problème. Est-ce que Gaëtan, la question de Gaëtan arrive ? Bon, bah écoutez, on va enchaîner, c'est pas grave. Docteur Karmochkine, la question Gaëtan, je peux vous dire de sur quoi elle portait. Elle portait sur le traitement préventif du VIH. Vous savez, la PrEP, évidemment, vous connaissez. Il demande s'il a dit qu'il avait vu donc qu'on pouvait aujourd'hui tester des médicaments contre le VIH dans le cadre du coronavirus. À savoir, est-ce que lui, du coup, était protégé éventuellement contre cette infection puisqu'il prend un traitement préventif? Allô?
Allô, allô?
Oui, moi je vous entends.
Oui, alors je pense que la question c'est de savoir si le Truvada, qui est le traitement qu'on donne dans
Exactement.
La prophylaxie pré-exposition du VIH et qu'on donne également au cours de l'infection par le VIH, est un traitement préventif du coronavirus. Et malheureusement,
Exactement.
La réponse est non. La réponse est non. Le Truvada n'est pas un traitement efficace contre le coronavirus. Néanmoins, je veux juste rebondir. Pour les personnes séropositives, j'aimerais bien passer un message.
Bien sûr.
Pour les 140 000 personnes séropositives en France, ce qui est très très important dans le contexte actuel, c'est de bien continuer les traitements du VIH. J'ai un tout petit peu peur qu'il y ait des personnes tellement affolées par la situation sanitaire actuelle, qui lâchent prise et qui arrêtent leur traitement, du coup qui se mettent en danger au niveau du VIH. Donc ça c'est un message vraiment important pour tous les séropos, continuez vos traitements, protégez-vous comme l'ensemble de la population.
Bien sûr. Jimmy Mohamed ?
Eh bien, justement, parce que finalement, on dit qu'il faut être vigilant, que les traitements contre le VIH ne protègent pas du coronavirus. En revanche, il y a des essais cliniques qui sont en train de débuter, notamment en France, auxquels la France va participer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi des traitements qui existent déjà contre le VIH pourraient avoir un impact sur le Covid-19 alors que ce ne sont pas du tout les mêmes virus ?
Oui, alors ce ne sont pas les mêmes virus. Hein. Le VIH, c'est un rétrovirus et les médicaments que l'on donne dans le cadre du VIH sont adaptés pour lutter contre les enzymes de réplication des rétrovirus. Alors, il est vrai qu'il y a quelques études qu'on va dire observationnelles, c'est-à-dire quelques cas où on a montré qu'avec certains vieux antiviraux du VIH, comme le Caletra, il y avait peut-être une efficacité, mais ce sont des observations. Et vous comprenez bien que dans une infection qui guérit toute seule dans 85% des cas, si on n'a pas de groupe témoin, on ne peut pas dire si la guérison est liée à la prise du médicament ou c'est une guérison spontanée. Et effectivement, il y a des essais prospectifs, c'est-à-dire qu'ils vont comparer plusieurs types de traitements qui démarrent actuellement pour, on va dire, pour les cas les plus graves. C'est pas pour la médecine ambulatoire pour le moment.
Docteur Karmochkine, on a beaucoup de questions pour vous. Là, je vais vous lire celle d'Angèle sur le hashtag Radio Ouverte. Elle nous demande pourquoi le point de départ des essais cliniques pour trouver un traitement contre le coronavirus, c'est toujours avec des médicaments déjà existants pour d'autres pathologies. Pourquoi on ne cherche pas, elle demande directement, à mettre au point un nouveau traitement spécifique contre le Covid-19?
Alors si, là il y a des équipes qui cherchent un médicament spécifique, mais toujours en médecine, surtout quand on est face à un agent infectieux émergent, on teste, parce que c'est facile d'utiliser in vitro dans des tubes à essai, des molécules déjà existantes. Donc les essais commencent toujours comme ça. On regarde ce qui marche le mieux in vitro pour essayer ensuite de le développer chez l'être humain. Mais ça n'empêche qu'il y a effectivement des chercheurs qui travaillent sur des médicaments spécifiques. Mais alors là, évidemment, on en est très très loin là.
Ouais, et puis c'est plus long de fabriquer un tout nouveau médicament que de faire
exactement,
ce qu'on appelle du repositioning. Hein, c'est ça, c'est
exactement,
prendre des anciens médicaments, c'est plus, plus,
ouais, on
plus rapide en général.
Du recyclage, exactement. Et les essais qui commencent sont des essais qui commencent avec des médicaments déjà existants.
D'accord. Jimmy ?
On a aussi une autre question, c'est celle de Johan qui est à La Rochelle, qui nous dit « Tous les pays asiatiques, et même les Turcs maintenant, désinfectent les rues. Pourquoi on ne le fait pas en France ? Je ne comprends pas. Si on nous interdit de sortir, c'est qu'il y a bien un danger dans la rue, non ?»
Non, je pense que là, raisonnablement, on sait que les personnes infectées par le Covid peuvent déposer avec leurs mains sur les surfaces, sur les tables, sur les poignées de porte, peuvent déposer du virus. Mais dans l'air, il n'y a pas de virus qui circule. Et sur le sol, il y a peut-être un peu de virus sur le sol, mais on ne va pas l'attraper parce qu'on ne va pas se mettre à lécher le sol, par exemple. Donc non, désinfecter la rue à ce stade, ce n'est pas une bonne idée. Mais encore une fois, on en revient au confinement parce que c'est vrai que les poignées de porte, par exemple, sont une source de contamination par le coronavirus. Donc, si on est confiné, on ne va pas ouvrir de multiples poignées de porte. Donc, ça,
mais pourquoi
important.
Ils font ça, ces pays-là? Alors, on voit de nombreuses images à la télévision, notamment de ces pays avec des grands camions, des grandes lances de désinfectants. C'est vrai que les Français, ils ont l'impression qu'en France, on ne fait pas le maximum, mais c'est des mesures d'affichage, vous pensez?
Moi, je pense. Voilà, c'est pareil. Hein, je suis pas hygiéniste, donc je saurais pas répondre. Mais ouais, je pense que c'est quand même pour sécuriser la population, et je pense que ça ne sert à rien. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, le port de masque pour les soignants est indispensable, et le confinement est devenu indispensable. On continue à se laver les mains, et effectivement, moins on touche de surfaces potentiellement contaminées, et mieux c'est.
Mais pourquoi, c'est vrai que de toute façon, cette différence de stratégie, on va dire, de protection des populations dans les pays, dans les différents pays, ça trouble un peu le message aussi pour les Français qui voient tout ça à la télé. On sait qu'il y a des pays qui ont fermé les écoles, d'autres non, de certains qui confinent, d'autres non. Pourquoi on n'est pas tous d'accord? Enfin, je veux dire, l'infectiologie, les virus, ils nous touchent de la même façon. Pourquoi on n'a pas les mêmes stratégies?
Bah, effectivement, l'OMS, au départ, on est quand même face à une maladie émergente. Tout ça est très récent. Ça a eu 3 mois. Ça n'a que 3 mois. Et donc, l'OMS a un petit peu observé, a essayé de collecter des données avant d'avoir des recommandations. Et donc, même si on est dans un état de pandémie, c'est vrai que la réponse des États n'est pas la même partout. Et on saura à terme qui avait tort et qui avait raison.
Jimmy?
Encore une petite question, on va dire un peu plus pratique, c'est celle de Michael dans les Deux-Sèvres. Maintenant qu'on est tous confinés chez vous, est-ce que ça sert encore à quelque chose de se laver autant les mains si on ne sort plus finalement?
On est confinés chez nous, pas chez vous, Jimmy.
Si on est Si on est, alors je dirais que si on est seul dans son appartement, c'est probablement moins utile. Mais à partir du moment où il y a au moins deux personnes dans l'appartement, et comme effectivement on ne sait pas s'il n'y a pas une des personnes, un enfant, etc., qui a pu se contaminer la veille, tant qu'on est, enfin, je pense que dès qu'il y a plus qu'une personne dans l'appartement, c'est important de se laver les mains toujours. Et je vous rappelle qu'on a le droit quand même de sortir faire ses courses. Donc quand on revient de course, il faut se laver les mains. Et donc je pense que voilà, c'est important de garder cette règle. Il faut qu'on ait des messages simples, des règles simples. Donc le lavage des mains est absolument essentiel. Donc pour le moment, gardons cette règle.
Même quand on ne sort pas du tout de chez soi pendant plusieurs jours, moi j'ai pas mis le nez dehors depuis 3 jours, j'ai besoin de me laver les mains toutes les heures comme le préconisent les autorités.
Non, si vous, ça dépend, je vous dis, s'il y a une seule personne dans l'appartement, c'est sans doute pas nécessaire de se laver les mains toutes les heures si vous ne sortez pas. Mais si d'autres personnes qui viennent chez vous parce qu'elles ont été faire une course, parce que voilà, des gens de votre famille, etc., dans ces cas-là, il faut garder cette règle du lavage des mains.
Et si on a quelqu'un par contre de malade à la maison, là, c'est encore plus encore plus de précautions, pardon.
Alors, les malades à la maison, on essaye de les isoler dans l'appartement. Hein, c'est important que les malades aient une pièce. C'est important d'utiliser des masques. C'est important de nettoyer les surfaces. C'est important d'isoler les brosses à dents. Hein, s'il y a quelqu'un de malade dans la maison, on ne met pas les brosses à dents dans le même verre à dents. Donc, quand il y a un malade à la maison, on est dans une stratégie de confinement qui est encore plus stricte, évidemment.
Merci beaucoup docteur Karmochkine d'avoir été avec nous pour répondre aux auditeurs d'Europe 1 et de nous apporter bien sûr votre éclairage, on en a besoin en ce moment. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient. Nous appellerons le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Il est lui-même contaminé par le coronavirus et vous l'entendrez, il est assez remonté contre les autorités. Restez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, alors je ne suis pas en peignoir de satin, moi ça sera à partir de 16h pour votre émission santé. En tout cas, à mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed, et on accueille par téléphone à présent le docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors docteur Hamon, je rappelle que vous êtes le président de la FMF, la Fédération des médecins de France, et il se trouve que vous, bien malheureusement, ça y est, vous êtes atteint par le coronavirus. D'abord évidemment, comment vous sentez-vous ?
Un peu fatigué, un peu de fièvre, mais c'est vrai que surtout ce qui domine, c'est la fatigue.
On espère évidemment que vous allez vite être sur pied et guérir. Ça a démarré quand vos symptômes à vous ?
Ça a démarré dimanche par un petit 38, pareil lundi. Et puis comme j'avais une de mes associées qui avait également un peu de fièvre, on a décidé de se faire tester pour savoir si on y a eu droit et surtout si on pouvait continuer à soigner les gens. Donc, on s'est retiré le lundi et puis lundi soir à 22h30, le médecin de l'hôpital nous a téléphoné pour dire qu'on avait gagné.
Ouais. Jimmy Mohamed.
Cher confrère, écoutez, déjà j'espère que vous allez vite vous rétablir. Je pense qu'on a besoin d'effecteurs et on a besoin aussi que vous alliez bien. Néanmoins, en cette période, on a quand même pris certaines dispositions. Je ne sais pas pour vous, on en avait discuté, mais on renforçait les mesures d'hygiène. Moi, de mon côté, je suis très vigilant. Est-ce que vous savez comment a pu se passer la contamination ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça n'a pas marché ?
C'est-à-dire que je ne me suis pas méfié. C'est-à-dire que c'était une visite à domicile d'un patient diabétique qui venait d'habitude au cabinet et puis j'ai été appelé chez lui parce qu'il n'allait pas bien du tout et je me suis pas méfié. J'ai vu que bon, il était un peu confus, mais j'ai mis ça sur le fait qu'il n'avait pas fait son insuline et puis je me suis assis à côté de lui pour l'examiner et là il a toussé alors qu'il n'avait pas toussé du tout et là j'ai pris la quinte quasiment en pleine face et je me suis dit que j'avais droit quoi. Et c'est stupide parce que bon j'aurais pu mettre des masques mais là vu ce qu'il m'a envoyé il aurait fallu des masques et des lunettes parce que là j'en ai fait partout.
Ouais. Et des médecins contaminés autour de vous, vous en connaissez beaucoup, vous avez parlé de votre confrère dans votre cabinet que vous partagez à plusieurs. Comment on va faire si vous tombez tous comme des mouches, là, justement ?
C'est-à-dire, c'est la question qui va se poser, parce que comme on nous fait travailler avec des passoires, avec des masques qui ne protègent rien du tout, c'est clair que moi, j'ai mes copains de l'Oise hein, qui me disent qu'ils ont des, qui ont des copains, qui des collègues qui commencent à être contaminés aussi, des copains de Marseille qui m'ont dit qu'autour d'eux il y avait deux médecins qui étaient contaminés. Bon, ça commence à bien faire, et je peux vous dire que dans l'Oise, là, quand ils ont vu débarquer les masques chirurgicaux, ils n'étaient pas très contents. Et là, aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'à Clamart, écoutez, accrochez-vous bien, il y a une boîte de 50 masques FFP2 qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnel pour ces boîtes de masques FFP2, mais ça fait vraiment pas beaucoup. Mmh. Et là, on sent que l'incapacité de l'administration à gérer cette crise commence à énerver beaucoup.
Jimmy ?
Écoutez, chers confrères, moi j'ai le sentiment qu'on a envoyé un peu au casse-pipe. On a prêté le serment d'Hippocrate, malgré tout, on est là pour aider la population. J'ai le sentiment que parfois, lorsqu'on voit des patients bien portants, le service médical rendu est proche de zéro. Est-ce que vous pensez pas qu'on est un peu, les médecins, on est un peu sacrifiés sur l'autel quand on voit comment, notamment à l'hôpital, ils sont protégés quand ils ont du stock, parce qu'il y a des services où les stocks diminuent. Est-ce que vous pensez qu'on est un peu utilisé comme de la chair à canon?
Exactement, exactement. C'est le terme exact. Hein. On nous envoie sans aucune protection. C'est un pur scandale. Alors je veux bien qu'on parle des héros en blouse blanche, mais les héros en blouse blanche, ils sont à poil, et c'est vraiment scandaleux. L'administration devra rendre des comptes. Et je peux vous dire que la fureur des médecins, des infirmiers, des spécialistes qui sont confrontés, les stomatos, les ORL, les ophtalmos, etc., je peux vous dire que la colère n'est pas prête de retomber.
Donc on a bien compris que c'est la pénurie de masques qui vous met particulièrement en colère, vous et les autres soignants. Mais pourtant, le gouvernement n'arrête pas de dire il en arrive 1 million par-ci, il en arrive 3 millions par-là. Ils ont bien atterri quelque part, ces masques. Vous, les médecins libéraux, ils ne sont pas arrivés jusqu'à vous?
Eh bien non, la preuve, parce que quand vous avez une pharmacie qui est censée livrer une dizaine de professionnels de santé entre les infirmières, les kinés, les médecins, et que vous arrivez avec une boîte de masques FFP2, donc on pourra dire qu'on a FFP2, ça, on en a rencontré, hein, mais avec une boîte, ça va pas aller bien loin, et ça sent vraiment le mépris total. Ça sent le mépris total et c'est vraiment très, très, très énervant.
Jimmy, vous aussi, vous faites des consultations tous les jours au domicile uniquement, justement. Vous avez quoi comme équipement, vous, à ce jour?
Eh bien, écoutez, il me reste 3 masques. J'ai été encore à la pharmacie. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas été livrée. A priori, demain, on pourra en récupérer. Tous les jours, on nous dit demain. C'est problématique. Je porte des gants quand c'est possible. Je me lave les mains. Et malgré tout, j'ai des confrères qui ont exactement les mêmes mesures de protection et qui ont désormais de la fièvre. Tous mes confrères tombent comme des mouches. Les cas se multiplient jour après jour, avec parfois des cas sévères. J'ai un confrère qui a été hospitalisé aujourd'hui. Il est plutôt jeune et sans antécédents. Donc je vous cache pas que ça m'est jamais arrivé. Désormais, je vais travailler en étant un peu stressé. Je me demande, est-ce que finalement ça peut être comme les autres? Mais c'est vrai que c'est un peu dramatique. La situation est vraiment dramatique.
Docteur Hamon, une fois que vous serez guéri, ça a l'air quand même, vous dites, vous parlez de fatigue, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de symptômes de gravité, j'espère, hein, en tout cas. Vous comptez retourner à votre travail, j'imagine, je vous connais un peu. En tout cas, à ce stade, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas encore touchés, justement, qui ne le seront pas, on l'espère? Le confinement, c'est vraiment la seule solution pour vous aider?
Oh, mais le confinement, il faut rester confiné. C'est la seule arme. C'est la seule arme pour enrayer cette saloperie. Il faut rester confiné, respecter le confinement, etc. Donc, bon, alors c'est vrai qu'on comprend que les Français aient du mal à comprendre le confinement quand on leur a demandé la semaine avant d'aller voter. Mais c'est clair qu'il faut rester confiné, il faut respecter ce confinement. C'est la seule façon de faire reculer cette épidémie.
Et de vous aider, vous les soignants qui êtes en première ligne. On vous remercie beaucoup, docteur Jean-Paul Hamon, d'avoir été notre invité. On vous souhaite à ce stade bientôt, bien sûr, surtout un bon rétablissement, évidemment. Merci encore.
Merci à vous.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, nous allons prendre en ligne le président fondateur de la plateforme Doctolib. Depuis le début de l'épidémie, la médecine se transforme, s'adapte à cette situation inédite. Les médecins et même les autres professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à passer à la téléconsultation. On en parle juste après avec lui, mais d'abord on essaye de vous informer, mais aussi de vous faire un peu de bien. Place à la musique, c'est Donna Lewis et son titre qui parle d'amour en ce moment. On en a bien besoin, ça s'appelle I Love You, Always Forever. Feels like C'était la chanteuse Donna Lewis avec son morceau qui me rappelle mon adolescence. C'était I Love You Always Forever.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Notre émission s'adapte évidemment depuis le début de la semaine. Vous l'avez compris, nous sommes tous les deux désormais en télétravail. Mais bien sûr, on reste mobilisés pour vous informer dans des conditions un peu particulières. Mais on est chez vous, mais on est là avec vous pour vous informer. Alors à présent, on accueille par téléphone Stanislas Nyok-Château. Vous êtes le président fondateur de la plateforme Doctolib. Bonjour.
Bonjour.
Alors, chez Doctolib, on peut dire que vous constatez déjà une conséquence très directe de cette épidémie. La téléconsultation a explosé, hein, je crois. C'est-à-dire, en chiffres, ça donne quoi ?
Alors oui, exactement. Depuis un mois, les rendez-vous en vidéoconsultation étaient multipliés par 40 sur notre service. Et la part des consultations en vidéo chez les médecins généralistes français qui sont équipés de la vidéoconsultation, elle est passée de 5% à plus de 50%. Et en plus, ça augmente d'heure en heure parallèlement à l'équipement des professionnels de santé.
Oui, alors c'est-à-dire que là, vous avez dit que ça a déjà explosé depuis ces dernières semaines, mais là, au moment où on se parle, ça augmente toujours, hein, c'est ça?
Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, il y avait 3500 médecins qui avaient la vidéoconsultation. Et parallèlement aux annonces du gouvernement qui ont favorisé la mise en place de la vidéoconsultation, eh bien, il y a eu des milliers de demandes et on a pris la décision, nous, de soutenir bénévolement les praticiens en offrant la téléconsultation sur Doctolib. Et depuis mardi, il y a 80 000 professionnels de santé qui peuvent utiliser la vidéoconsultation et donc recevoir les patients à distance en sont également des ordonnances à distance.
D'accord. Jimmy Mohamed ?
Et justement, les médecins, s'ils font ça, c'est notamment à la fois pour se protéger, protéger les autres patients, et puis mieux organiser peut-être la répartition des consultations et l'afflux en ce moment qu'ils peuvent recevoir.
Oui, oui, exactement. C'est un, pour permettre de respecter le confinement, tout en continuant bien sûr de soigner leurs patients. C'est pour aussi pour orienter les patients à distance vers la meilleure réponse de soins. Et puis, c'est enfin pour suivre les patients atteints du Covid-19, mais avec des symptômes légers, et qui reste suivi à domicile par des médecins généralistes.
D'accord. Et ces explosions de la téléconsultation, elles concernent que les médecins généralistes ou les autres spécialités aussi? D'ailleurs, même, je ne sais pas, les paramédicaux, les kinés, je crois que sur Doctolib, il y a des possibilités de prendre des rendez-vous pas avec des médecins. Hein.
Alors, non, elle concerne essentiellement les médecins généralistes ou médecins spécialistes. Elle concerne aussi les sages-femmes et les psychologues. Par contre, les kinés, les chirurgiens de petite enfance, aujourd'hui, il y a un remboursement lié à la vidéoconsultation. Donc, c'est essentiellement les spécialités que je vous ai citées.
Jimmy ?
Et justement, pour un médecin qui n'a jamais fait de téléconsultation, est-ce que c'est compliqué techniquement de s'y mettre? Alors, non pas que je dise que les médecins sont un peu dépassés, mais parfois, voilà, la moyenne d'âge est un peu importante et donc parfois ça peut être compliqué. Est-ce que c'est pas un obstacle justement à l'installation de la téléconsultation?
Alors, c'est un point qui est très important. En fait, il y a deux semaines, on a mis en place une équipe de 100 personnes pour aller les aider à installer la vidéoconsultation. On a eu tellement de demandes que humainement, on n'avait plus la capacité de le faire et donc on a développé dans les derniers jours un système qui permet maintenant à un médecin d'installer la vidéoconsultation en 20 minutes. Et c'est d'une simplicité, c'est extrêmement simple pour lui. Il peut ensuite convertir les consultations présentielles en téléconsultation et téléconsulter avec ses patients. Donc 20 minutes, c'est extrêmement simple pour tous les médecins de France. L'objectif étant de généraliser rapidement la vidéoconsultation pour permettre de respecter le confinement qui a été édicté par l'État.
Et du côté des patients, très concrètement, qu'est-ce qu'il faut avoir comme équipement à la maison pour bénéficier d'une téléconsultation?
Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, il suffit d'un smartphone ou d'un ordinateur avec une webcam. Il faut aller sur doctolib.fr, prendre un rendez-vous en ligne comme vous le faites d'habitude, sauf que au lieu de prendre un rendez-vous pour une consultation dans le cabinet, vous prenez un rendez-vous pour une vidéoconsultation. Quelques minutes avant le rendez-vous, le patient reçoit un SMS. Il clique sur le SMS, se connecte à une salle d'attente virtuelle. Et ensuite, il effectue une vidéoconsultation avec son médecin. À la fin de la consultation, il va recevoir l'ordonnance de manière sécurisée et cryptée dans son compte. Et il pourra directement aller chercher ses médicaments.
Docteur Mohamed ?
Je vois essentiellement, notamment en visite à domicile, des personnes âgées, des personnes fragiles. Je pense que pour elles, c'est beaucoup plus compliqué. L'obstacle est peut-être là. La limite, en tout cas, de la téléconsultation, elle se trouve peut-être justement chez les seniors, mais qui ont en plus besoin peut-être des médecins de façon plus importante.
Oui. Alors, pour moi, en fait, il y a deux sujets pour les seniors. Déjà, le premier, c'est faux de dire que les seniors ne vont pas sur Internet et n'ont pas accès à des ordinateurs ou des smartphones. Et on le voit, nous, tous les jours, puisqu'on a un Français sur deux sur Doctolib chaque mois. Et le second point, c'est que ces seniors peuvent être aidés par des personnes avec qui ils sont. Ça peut être une infirmière ou ça peut être d'autres personnels soignants qui peuvent mettre comme ça en contact un médecin généraliste libéral avec une personne âgée.
Alors, ce qui est sûr, c'est que cette épidémie, elle bouleverse les habitudes des patients et des médecins. Ça, on l'a compris. Et justement, les médecins, vous les avez interrogés, vous, ces derniers jours, chez Doctolib, dans un baromètre. Ils vous disent qu'ils ont fortement changé leurs habitudes. Par exemple, ils sont plus disponibles, c'est ça, qui ressort, par exemple, de ce sondage?
Alors oui, exactement. Nous, en fait, on a créé, il y a maintenant 15 jours, une communauté de partage et d'entraide entre médecins libéraux et entre professionnels de santé au sens large. Il y en a 96% qui disent avoir déjà modifié leur manière de travailler. Et alors, il y a plein de choses qui ont changé. La première, c'est la vidéoconsultation. La deuxième, c'est l'organisation de la salle d'attente. La troisième, c'est qu'ils ont mis en place des plages horaires dédiées pour recevoir des patients potentiellement atteints du Covid. Mmh. La quatrième, c'est qu'ils sont beaucoup plus disponibles aujourd'hui qu'ils n'étaient avant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en première ligne. Donc, c'est Mais eux oui. qui sont en première ligne pour répondre aux demandes de soins des patients français.
Merci beaucoup Stanislas d'avoir été avec nous pour nous expliquer tous ces changements à cause de l'épidémie actuelle donc dans les cabinets médicaux. Merci encore.
Europe.
Dans un instant, votre émission santé revient, des questions médicales ou même du quotidien sur le coronavirus. Vous nous en avez envoyé des tonnes, on va essayer d'y répondre dans quelques minutes. On fera aussi le point avec une allergologue. Elle craint que ses patients asthmatiques, allergiques, arrêtent à tort leur traitement à cause de cette panique liée à ce virus. Et ça, il ne faut surtout pas, on va vous expliquer pourquoi. Restez avec nous sur Europe 1.
16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors nous accueillons à présent en ligne une allergologue très inquiète, docteur Madeleine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Alors vous m'avez envoyé il y a quelques jours un SMS pour ne rien vous cacher en me disant il faut absolument passer un message aux asthmatiques, aux allergiques, ils ne doivent pas arrêter leur traitement. Pourquoi cette inquiétude? Vous avez eu vraiment des retours en ce sens?
Oui, en fait, mardi dernier, c'était la journée française de l'allergie. À cette occasion, on répondait au chat, c'est-à-dire c'est des questions qui étaient par chat d'internautes, qui n'ont absolument pas parlé du sujet qui était présenté, qui était allergie sommeil, mais qui ont tous posé des questions sur j'arrête mes traitements. J'ai peur, etc. Moi-même, j'ai reçu des mails de patients disant « Là, je suis sous antihistaminique, j'ai baissé la dose, du coup, j'ai beaucoup plus d'urticaire. » Et donc, il faut qu'on arrive à faire diffuser un maximum de personnes concernées que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire.
D'accord. Et si on prend d'abord les asthmatiques, on va dire, hein, clairement, oui. En plus, il faut rappeler qu'ils font partie des patients fragiles face au coronavirus. Hein, ça, c'est prouvé. Hein.
Non, pas vraiment. Sur l'étude là, qui est sortie dans le Lancet et sur allergie, on montre que les profils de comorbidité, c'est-à-dire les autres pathologies en plus du coronavirus, les gens fragiles, en fait, il n'y avait pas vraiment d'asthmatique ni même de bronchite chronique dans les premières cohortes qui ont été étudiées. Alors après, on imagine, les asthmatiques sont pas plus à risque que tout le monde d'attraper le virus.
Non, la question suivante, c'est d'avoir quelque chose de grave. Oui.
Est-ce qu'ils vont faire une forme plus sévère? Ça n'a pas été démontré, ça. Après, bien entendu, il faut être prudent et la meilleure protection, justement, c'est d'équilibrer ces bronches, de les mettre au repos pour qu'elles soient pas trop réactives, pour qu'elles soient pas trop inflammées. Et diminuer le risque. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille vraiment absolument à tous les patients qui sont sous corticoïdes inhalés pour asthme, surtout de ne pas les arrêter.
Jimmy ?
Chère consoeur, je vous trouve un petit peu confiante et un peu sereine en disant que les asthmatiques ne sont pas à risque. Nous nous sommes beaucoup trompés, moi le premier. Je pense que les données, nous sommes en train de les découvrir. Les séries chinoises semblent assez partielles. Je discute autour de moi et mes confrères m'expliquent finalement avoir de moins en moins confiance à ce qu'on a pu avoir. Donc soyons prudents justement avec les asthmatiques.
Oui,
effectivement, vous avez raison. Il faut qu'on les sensibilise au fait de ne pas arrêter leur traitement. Mais je pense qu'on ne peut pas les considérer comme... Bon, voilà, mais je pense qu'il ne faut pas dire que les asthmatiques ne sont pas à risque pour l'instant. On a l'impression, mais on a.
Exactement. Ils ne doivent pas être prudents et ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prendre leur traitement. Donc là, on se rejoint.
Et justement, qu'est-ce que. Typiquement, un asthmatique, s'il commence à se sentir essoufflé, qu'il a de la fièvre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse par exemple? Est-ce qu'il doit prendre son traitement à base de corticoïdes? Est-ce que c'est des personnes qu'il doit consulter? Parce qu'on a souvent dit aux gens, si vous avez des symptômes de coronavirus, n'allez pas voir votre médecin. Est-ce qu'on doit peut-être. Est-ce qu'on a des recommandations particulières?
Il faut qu'il passe par le circuit recommandé. S'ils ont vraiment des symptômes d'essoufflement et de la fièvre, bien entendu, là, c'est le SAMU, c'est le circuit suspicion de coronavirus, bien sûr. Bien sûr.
Par contre, ce risque, du coup, vis-à-vis des asthmatiques, on a vu que, on a dit, bon, ils sont pas plus à risque de l'attraper, mais attention, peut-être quand même s'ils attrapent le coronavirus. Néanmoins, le risque, il est quand même pas le même pour tous les asthmatiques. J'imagine qu'il y a asthmatiques et asthmatiques, hein. Il y en a qui sont plus sévères que d'autres.
C'est toujours pareil. Dans toutes les pathologies, vous avez des degrés de sévérité qui sont variables. Vous avez des asthmes légers, des asthmes sévères. Alors, là, je vais rejoindre le docteur Mohamed. On n'a pas de données, précises sur est-ce que ceux-là sont plus à risque. Dans tous les cas, tout le monde doit faire très très attention, limiter les contacts, se laver les mains, prendre les médicaments qui équilibrent leur pathologie.
Alors, on reçoit beaucoup de questions ici depuis le début de la semaine au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Docteur Eckstein, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question que nous a posée Aurélie de Marseille. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et Bini Mohamed. Alors, j'ai une question pour vous. Je suis asthmatique et en même temps allergique au pollen. En ce moment, il y a plein de pollen, j'habite à Marseille. Et je voulais savoir si le fait de prendre des antihistaminiques, c'était déconseillé par rapport au coronavirus, si ça pouvait avoir les mêmes effets que les anti-inflammatoires ou pas. Merci de votre réponse. Bonne journée.
Docteur Eckstein, qu'est-ce qu'on peut répondre à Aurélie ?
Ah, ben, c'est une excellente question. Les antihistaminiques, au contraire, vont protéger. Alors là, c'est une autre étude qui a démontré qu'en fait, c'est un petit peu compliqué, mais le fait d'avoir une réaction allergique, ça peut rendre plus fragile et plus sensible aux infections. Et le fait de bloquer l'histamine, qui est le médiateur, c'est la substance qui entraîne l'allergie, le fait de la bloquer, ça permet d'être moins fragile aux infections virales. Donc il est très, très, très important. Est-ce que c'est assez clair? Parce que c'est un petit peu dans le...
Oui, je crois que c'est clair. En tout cas, il ne faut pas arrêter les antihistaminiques. Même s'ils fonctionnent, parce que parfois, il y a des combinés. Oui.
Pardon?
Parfois, il y a des médicaments vendus sans ordonnance qui sont combinés antihistaminiques avec éventuellement peut-être un anti-inflammatoire. Ça, on évite ou pas?
Ah oui, ça, bien sûr, les anti-inflammatoires. Alors, c'est le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un anti-inflammatoire par rapport aux corticoïdes, par rapport aux antihistaminiques. Ce sont des classes thérapeutiques différentes. Nous, médecins, bien entendu, on le sait. Les patients, c'est pas obligé qu'ils le sachent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire la distinction.
Merci beaucoup, merci Dr Eckstein d'avoir été avec nous pour informer donc les patients asthmatiques ou allergiques qui nous écoutent. Et une info pratique supplémentaire que je vais ajouter pour ceux qui auraient encore d'autres questions, un numéro vert est à votre disposition, celui de l'association Asthme et Allergie, c'est le 0800 19 20 21, 0800 19 20 21.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous continue dans un instant, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Catherine Blanc, notre psychanalyste maison, sera avec nous en ligne. Avec elle aujourd'hui, on va s'autoriser à parler des bienfaits des rires. Du rire, des rigolades, des sourires, une séquence très positive. Je vous préviens d'avance, mais tout de suite on va écouter un peu de musique sur Europe 1 avec Les Enfoirés et leur titre « À côté de toi ».
Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit, pas le matin.
Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour.
Tu me dis, c'est un peu loin.
Mais je dis, pas si on court.
Si tu me tiens la main, ouais, tu me tiens la main.
Si tu me tiens la main, ouais, tu me tiens la main.
Sans le temps, pas de victoire.
Sans le vent, aucun espoir.
Tu me dis, ça sent la fin.
Mais je dis, on verra demain.
Si tu me tiens la main, ouais, tu me tiens la main.
Si tu me tiens la main, ouais, tu me tiens la main.
Même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, ouais.
Moi, je veux rester là, à côté de toi,
à côté. côté de toi, juste
à côté de toi, moi.
Je veux rester là,
à côté de toi,
à côté de toi, juste
à côté de toi, moi.
Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi,
juste à côté,
à côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi.
C'était le dernier single des Enfoirés, à côté de toi, au profit des Restos du Cœur, évidemment. On n'oublie pas d'ailleurs la solidarité pendant cette période difficile pour tous. On compte sur vous, on reste chez soi, mais on doit aussi rester solidaire.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Ah, j'entends le
alors, alors, est-ce
voix,
que
ça tombe bien,
est-ce que
ça me
tout
fait plaisir.
Le monde va bien, on est chacun de notre côté, mais est-ce qu'on
toute
est bien tous ensemble?
L'équipe va bien, on est ensemble. Et
super.
Je rappelle donc pour nos auditeurs, vous êtes sexologue mais aussi psychanalyste. Alors avec l'épidémie de coronavirus, on se pose un tas de questions d'ordre psychologique aussi, et avec vous on va essayer d'y répondre. Donc aujourd'hui on avait envie d'aborder les bienfaits du rire, des sourires, des rigolades. C'est vraiment important selon vous à cette période, dans cette période un peu compliquée, de garder ça à l'esprit, le positif, quoi.
Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que quand il y a des moments comme ça de difficulté, c'est presque le sentiment de culpabilité que d'imaginer qu'on puisse être heureux. Or, ce sont dans des moments comme ça où il faut prendre la mesure des directives à prendre, des mesures pour les uns et les autres, pour nous sécuriser, nous secourir. Mais ça ne sert strictement à rien, bien au contraire, d'être dans la morbidité, puisque justement, plus la mort rôde, plus la vie s'impose. Dans tous les temps de guerre, dans
Catherine, Jimmy, vous êtes là, vous? Est-ce que je crois qu'on a perdu Catherine? Alors, ce sont les aléas du direct, effectivement. On est tous en télétravail, à distance, avec des applications connectées. Tout le monde se connecte, d'ailleurs, en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu Catherine. Jimmy, vous arrivez à rire, vous, encore chez vous, avec vos enfants? Vous avez trois garçons. J'imagine que, de toute façon, eux, ils doivent bien rigoler, hein.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on essaie de pas transmettre le stress aux enfants. Ils ont compris qu'il se passe quelque chose. Ils ont compris qu'effectivement, on vivait une période un peu particulière, mais ils gardent un peu leur insouciance. Et d'un côté, c'est vrai que ça déteint un peu sur nous. On est un peu angoissé, on voit ce qui se passe. Et voilà, le fait de faire, par exemple, une simple partie de Monopoly, eh ben, ça remet un peu les compteurs à zéro. Donc,
ah,
par moment,
je crois que vous avez un super Monopoly, vous, hein. Vous en avez acheté un
oui,
sympa.
Mais
je
vous assure. Alors, je vous cache pas
Dragon
que j'ai acheté
Ball Z, je le dis, parce que vous êtes
exactement
un grand fan, hein, c'est ça.
Mais oui, Dragon Ball Z, ça rappelle mon enfance. Et je vous cache pas que je l'ai acheté un peu plus pour moi que pour les enfants.
Donc, Catherine est de retour. Alors bon, Jimmy nous parlait de Dragon Ball Z, lui ça le fait sourire. Comment on fait? Parce qu'on a tous le moral un peu dans les chaussettes, je dois avouer. Alors vous rigolez, nous ça nous fait plaisir. Comment, qu'est-ce
oui,
qu'on peut faire chez soi
pour
arrêter de culpabiliser? On rigole parce qu'aussi la technique là aujourd'hui c'est compliqué, hein.
C'est ça. Bah moi c'est mon gros stress. Donc non tout ce que je voulais dire c'est que dans tous les temps de guerre, c'est les moments où il y a de l'intensité de l'amour, où il y a de l'intensité de l'inventivité pour échapper à la morbidité, et c'est justement ce qui fait la victoire sur la morbidité. Donc d'ailleurs vous avez par exemple, on a observé chez les petits singes, enfin dans les zoos notamment, que quand on privait les animaux de jeu, et automatiquement ils dépérissaient. Le rire, le jeu, la communion les uns avec les autres, la créativité, c'est justement un pied de nez à la morbidité, et rien ne sert, on n'est pas coupable d'être heureux alors que la maladie ou la mort rôde. Il n'est pas question de nier cette réalité, mais justement, il faut pouvoir être un combattant de ces réalités-là par de la joie. C'est le moment pour les familles de jouer ensemble, de rire, de se faire des blagues, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des tas de blagues, des tas de parodies, des
même
tas
sur
de,
le coronavirus. Hein, c'est vrai, les gens,
même sur le
pas,
coronavirus,
hein, ouais.
Exactement. Eh bien, c'était le moment où nous pouffons de rire. Eh bien, nous postillons à ce moment-là pour d'autres choses. Nous postillonnons, pardon, pour d'autres choses. Et tant mieux, parce que de toute façon, ce n'est pas en étant triste et déjà moribond que nous allons nous sauver de cette horrible passe.
Jimmy, lâchez le Monopoly Dragon Ball Z. Qu'est-ce que vous voulez demander à Catherine?
Bah oui, non, mais c'est vrai, mais il y a aussi le fait, par exemple, les beaux jours commencent à arriver, il fait beau, il peut y avoir de la frustration puisqu'on a envie de sortir, les enfants veulent sortir. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça puisque le confinement est la règle sans pour autant être un peu morose et être un peu triste de pas pouvoir sortir alors qu'il fait beau?
Eh bien, déjà, on ouvre ses fenêtres. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le jour du printemps. Alors, on peut se remettre Michel Fugain et chanter le printemps, danser, faire décorer à la maison. Rien ne sait pas parce qu'on ne l'aura pas tout de suite et qu'on est un peu frustré de ne pas pouvoir sortir, qu'on ne peut pas projeter ce qu'on va faire, faire la liste de tout ce qu'on va faire dès lors que nous pourrons sortir de ce confinement. C'est vrai que c'est très frustrant d'être un peu coincé. Les uns sont sous le soleil, d'autres sous la pluie, comme c'est mon cas. Eh bien, voilà, quand il pleut en temps habituel, on râle tous parce qu'il pleut. Mais pourtant, tout ne s'arrête pas. Donc, il pleut, eh bien, on ne sort pas. Il fait beau et on ne peut pas sortir. C'est comme s'il pleuvait. On sortira plus tard et on peut déjà élaborer avec beaucoup de joie tous nos prochains projets. Un peu comme les enfants font la liste des cadeaux de Noël. C'est pas le jour de Noël. Ils le font bien en amont. Ils rêvent, ils anticipent, ils changent d'avis. Eh bien, voilà, c'est le moment d'anticiper et de rêver notre avenir.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, voilà, sans rendez-vous, c'est terminé pour
et
aujourd'hui.
Les cœurs.
On se retrouve bien sûr dès lundi. Lundi, allez, on se déguise. Non, vous voulez pas qu'on essaye un truc un peu nouveau? Personne nous voit de toute façon, c'est pas grave.